À tous ceux qui font la tête quand on oublie leur anniversaire. À ceux qui gardent toutes leurs cartes d'anniversaire, même s'ils ne les reliront jamais. Et à ceux qui adorent les surprises et qui disent à chaque fois « Oh, je m'y attendais pas. » Vraiment, hein. Ah non, là, c'est... Oh. Pour son anniversaire spécial 100 jours pouvoir d'achat, Intermarché offre tous les mercredis 20 euros en bon d'achat pour 30 euros d'achat sur les produits présents dans le prospectus de la semaine. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 22 octobre. Utilisable vendredi et samedi de la semaine d'émission des 50 euros d'achat. Hors produits exclus, modalité sur intermarché.com.
Transbordement commence alors, tandis que des équipes de matelots et de militaires se relaient pour charger quelques 7800 caisses de bois dépourvues de la moindre marque. Depuis les quais jusque dans les caves de 4 cargos à Marella, le Neva, le Kim, le Volgors et l'Iruzo. Le chargement est parfois interrompu par les bombardements ennemis et il faut plusieurs jours pour embarquer cette immense fortune. Mais au début de la dernière semaine d'octobre, les 510 tonnes d'or ont été déplacées. Une masse invraisemblable qui représente un demi-milliard de dollars américains de 1936. Quelque chose comme 13 ou 14 milliards d'aujourd'hui. Le 28 octobre 1936, les quatre navires quittent discrètement les côtes espagnoles pour une destination gardée soigneusement secrète, Odessa, sur les bords de la mer Noire. Mais l'or n'a toujours pas fini sa longue odyssée, qui ne s'achève que quelques semaines plus tard, lorsque les 7800 caisses parviennent enfin à leur destination finale, Moscou, au cœur de l'URSS de Staline. Mais pourquoi la République espagnole, certes gouvernée par la gauche, mais parfaitement capitaliste, a-t-elle choisi d'acheminer son or au beau milieu de la capitale soviétique?
Eh bien, nous allons le découvrir dans un instant. Stéphane Bern nous raconte le plus grand hold-up de Staline cet après-midi sur Europe 1. À tout de suite.
Europe 1, historiquement vôtre.
Un impact sur votre pare-brise? Chez Carglass, nous, on s'engage à toujours réparer quand c'est possible, plutôt que remplacer tout le pare-brise. En plus, la réparation d'impact en centre, c'est en 30 minutes sans rendez-vous. C'est quand même mieux de réparer, même les objets de tous les jours. C'est pour ça que chez Carglass, pour toute intervention vitrage, vous avez 6 mois d'abonnement à Darty Max offert pour entretenir et réparer votre gros électroménager en illimité, et ça, peu importe où vous les avez achetés. Alors, rendez-vous maintenant sur Carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur Carglass.fr.
Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ces 8 modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves. À un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des super produits et des super prix. Découvrez nos super offres dès maintenant sur Amazon.
Chez Action, ils ont toujours des prix extrêmement bas. 500 grammes de café en grains Palazzo Dark Roast, 3,99€.
Quoi? C'est tout?
Et kit de construction véhicule Minimateurs en bois durable FSC, 6,95€.
Attends, il y a tout ça chez Action?
Mais oui, pour plus de prix extrêmement bas, rendez-vous en magasin ou consultez l'application. Action, petit prix, grand sourire.
Il était une fois une princesse en stage qui voyait tout en noir à cause de son petit budget. Heureusement, elle découvrit le raisin noir Origine France à 2,39€ le kilo chez Aldi. Et depuis, elle voit la vie en rose, avec des raisins tout noirs. Balèze quand même. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, vendu en vrac, variété Alphonse Lavallée ou Ribol, offre valable jusqu'au samedi 30 septembre, info sur aldi.fr.
Vous avez l'air emballé. Attendez, laissez-moi deviner. Vous venez de découvrir les nouvelles remises Poltron et Sofa. Je comprends que ça vous fasse cet effet-là. Économisez plus de 50% sur la collection Douceur. Avec des prix cadeaux comme ça, c'est sûr, il y a de quoi se laisser séduire par nos canapés nouvelle génération.
Poltron et Sofa, solo divani di qualità. Voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions au magasin.
Leclerc, bonjour.
Bonjour, je vous appelle de Hambourg.
Ah, vraiment?
Yeah, mais je n'ai pas trouvé votre muscat, ni de magasin Leclerc. Pouvez-vous m'expliquer?
Alors, c'est le raisin noir muscat de Hambourg français qui est à 2,65€ le kilo du 26 au 28 septembre dans tous les Leclerc de France.
Ah, je comprends mieux!
Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Origine France, catégorie 1, modalité et magasin participants sur www.e.leclerc.
Europe 1,
historiquement vôtre.
Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Stéphane Bern nous raconte dans Historiquement vôtre et jusqu'à 16h, le plus grand hold-up de Staline. Alors qu'à l'automne 1936, quatre cargos russes quittent les côtes d'Espagne pour la mer Noire avant d'accoster dans le plus grand secret à Odessa, aux frontières de l'Union soviétique, pour remonter jusqu'à Moscou une fabuleuse cargaison d'or.
Pour comprendre les raisons qui amènent la République espagnole à expédier son or à plusieurs milliers de kilomètres de Madrid, il faut revenir au début de la guerre civile quelques semaines plus tôt. au moment où les quatre navires soviétiques quittent Carthagène pour le port d'Odessa, fin octobre 1936, deux Espagnes bien différentes s'affrontent depuis le milieu du mois de juillet. D'un côté, le pouvoir issu des urnes, celui de la Deuxième République espagnole et du Frente Popular, autrement dit le Front Populaire, une alliance des partis de gauche. Et de l'autre, le camp nationaliste. Entre ces deux bords que tout oppose, la politique, la religion, les mœurs et la politique étrangère, le conflit couve de longue date. Mais le 18 juillet, lorsqu'une partie de l'armée se soulève, sous les ordres du général Franco, la guerre civile devient une réalité. Le pays se déchire entre les républicains et des putschistes qui maîtrisent vite la moitié du pays, de la Galice à la Navarre, en passant par la Castille. La plupart des grandes villes comme Barcelone, Valence ou Madrid restent républicaines, mais le front se rapproche dangereusement de la capitale madrilène au cours des premières semaines du conflit. Dans l'Europe des années 30, la situation espagnole inquiète bien au-delà des frontières du pays de Cervantes. Le continent est lui-même divisé. D'un côté, les grandes démocraties occidentales comme la France et l'Angleterre, de l'autre, deux dictatures, l'Italie de Mussolini et l'Allemagne d'Adolf Hitler. À l'Est, enfin, l'Union soviétique dirigée sans partage par Joseph Staline depuis la fin des années 1920. Faut-il intervenir ou non? Lorsque la guerre civile éclate, chaque grande puissance porte un regard différent en fonction de ses propres intérêts ou de ses enjeux politiques internes. Partout, en Europe, le camp nationaliste pousse en faveur des insurgés du général Franco, tandis que les partis de gauche militent pour un soutien au Frente Popular, le pouvoir légitime. Partout à gauche, l'insurrection déclenche une vague de sympathie pour les démocrates espagnols en lutte. Et du côté de Moscou, bien sûr, on estime que l'Union soviétique se doit d'en prendre la tête. Après tout, la patrie de la révolution prolétarienne ne cache pas son ambition de soutenir la lutte au niveau international. Très vite, le Comintern se prononce en faveur de l'aide à Madrid. Dans le monde entier, cet organisme international sert en quelque sorte de courroie de transmission et de relais d'influence à la politique soviétique. Partout, les mouvements communistes lancent des collectes, fondent des comités de soutien et organisent des manifestations en faveur de l'Espagne républicaine. C'est dans ce contexte que naissent les brigades internationales, ces bataillons de volontaires armés qui s'engagent aux côtés des armées républicaines. Mais les guerres ne se gagnent pas qu'avec des hommes, aussi courageux soient-ils. Il faut des armes, du matériel et des munitions. Reste à se les procurer. Et pour cela, il faut de l'argent. Oui, et des fournisseurs aussi. Pour l'argent, la République espagnole n'en manque pas vraiment, bien au contraire. Elle est assise sur une réserve d'or presque inimaginable, accumulée pendant la Première Guerre mondiale. Un conflit dont l'Espagne s'est tenue soigneusement éloignée. Rien qu'à Madrid, on estime que les tonnes de métal précieux stockées dans les caves de la Hacienda, le bâtiment de la Banque d'Espagne, représente la bagatelle de 718 millions de dollars de 1936, l'équivalent de 13 milliards aujourd'hui. C'est tout simplement la quatrième plus grande réserve d'or du monde. Le problème se pose plutôt du côté des fournisseurs. Très vite, la République espagnole comprend qu'elle risque d'être victime des atermoiements des grandes démocraties, la France et l'Angleterre en tête. Dans une Europe à couteau tiré, ni Londres ni Paris ne veulent risquer un nouveau conflit majeur. Pas question d'intervenir militairement. Pas question non plus de vendre du matériel militaire aux républicains espagnols. En Angleterre comme en France, où le Front populaire est déchiré entre les partisans d'une intervention rangée derrière Léon Blum et ceux qui s'y opposent, les radicaux, c'est le camp de la neutralité qui l'emporte. Le 25 juillet 1936, la France renonce à fournir des armes aux belligérants. Mais le même jour, Hitler autorise l'envoi d'une première cargaison d'avions avec leurs équipages, leurs instructeurs et leurs mécaniciens. 48 heures plus tard, des moyens logistiques partent cette fois d'Italie pour alimenter l'arsenal franquiste, quitte à se cacher d'ailleurs derrière toute une série de sociétés écrans. Une semaine plus tard, le 1er août 1936, lorsqu'Hitler et Mussolini signent sans état d'âme un accord international de non-intervention qui n'existe que sur le papier, officiellement, ni l'Allemagne ni l'Italie n'aident directement Franco. Mais chacun sait que les deux dictatures ne se privent pas d'alimenter les troupes franquistes quand elles ne profitent pas du conflit pour tester leurs propres armements, comme à Guernica. Bombardé par les avions allemands, le petit village deviendra l'emblème d'un des plus grands crimes de guerre nazie. immortalisé par le pinceau de Picasso. À la fin de l'été 1936, l'Espagne républicaine se retrouve d'autant plus seule que la situation se complique. Les rebelles franquistes ne sont plus qu'à quelques dizaines de kilomètres de la capitale et Madrid affronte une double urgence. Il faut sauver l'ordre de la République d'une part, trouver des armes et des munitions d'autre part. Lâchée par la France et par l'Angleterre, coupée des marchés de l'armement, la République espagnole n'a plus guère le choix. Pour équilibrer ses chances, il ne reste plus qu'à répondre aux appels du pied de Staline. Reste à savoir à quel prix.
Et justement, on va le voir dans un instant. Vous écoutez Stéphane Bern qui nous raconte le plus grand hold-up de Staline. 15h-16h, c'est Historiquement Vôtre et sur Europe 1.
Europe 1, Historiquement Vôtre.
Renault.
Prix des carburants en hausse. Restrictions de circulation pour certains véhicules. Vous aviez déjà beaucoup de raisons pour passer à l'électrique. En voici une de plus. Renault Twingo E-Tech 100% électrique prête à partir. Des 100 euros par mois.
Twingo E-Tech électrique authentique hors option, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1500 euros après déduction prime gouvernementale. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 septembre si accordiaque selon stock disponible. Voir conditions sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel? Prise de poids rapide? Pieds et chevilles gonflés? Fatigue excessive? Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie.
Peugeot. Vous êtes au volant de votre Peugeot i208 100% électrique toute neuve et vous regrettez. Oui, vous regrettez vraiment de ne pas vous l'être offerte plus tôt. Parce qu'elle a tout. Un design irrésistible, des sensations de conduite uniques et en plus, elle vous permet de faire des économies. Jusqu'à 1400 euros par an sur le coût total d'utilisation par rapport à la version thermique.
Et en ce moment, Peugeot vous offre la borne de recharge. Économie calculée par crédit part en septembre 2023 dans le cadre d'une LLD. Conditions sur Peugeot.fr.
Pensez à covoiturer.
Pendant les jours Chris, votre deuxième paire de lunettes de marque est offerte.
Voilà ma deuxième paire de marque à la plage, ma deuxième paire de marque au resto, et là c'est ma deuxième paire de marque en mode sérieux à la bibliothèque.
Quand vous venez chez Chris, la vraie différence c'est que la deuxième paire de lunettes de marque offerte est aussi bien que la première. Alors vous allez avoir envie de la montrer. Design, classique ou innovant, venez trouver les vôtres pendant les jours Chris.
Et là c'est ma deuxième paire de marque en train de danser la salsa.
Chris, la confiance vous va si bien.
Offre valable jusqu'au 28 octobre 2023, voir conditions et liste des magasins participants sur chris.com. Dispositif médical, consultez un professionnel de santé.
Votre camping-car a combien d'années? 5? 10? Plus? Et si c'était le bon moment d'en acheter un neuf? D'autant plus que vous pourrez facilement revendre le vôtre. Alors allez au Salon des véhicules de loisirs du 7 au 15 octobre au Parc des Expositions de Paris-Nord-Villepinte et craquez pour un camping-car nouvelle génération. Carpe diem, non? Achetez vite vos entrées à tarif réduit 7 euros au lieu de 15 sur salonvdl.com.
Europe 1,
historiquement vôtre.
Et cet après-midi sur Europe 1, Stéphane Bern nous raconte le plus grand hold-up de Staline. Quelques semaines après le début de la guerre d'Espagne, un déséquilibre s'est créé en Europe. Officiellement, aucune des grandes puissances occidentales n'apporte de soutien militaire ou matériel à l'un des deux camps qui s'affrontent en Espagne. À Madrid, la République se tourne vers le seul État qui se dit prêt à l'aider, l'URSS de Staline. Reste à savoir maintenant à quel prix.
Alors que la percée des franquistes se précise à la fin de l'été 1936, la première urgence est d'évacuer les réserves d'or loin de Madrid d'abord, à l'étranger ensuite. Pourquoi à l'étranger? Parce que ça permet de protéger le précieux métal des avancées franquistes, ensuite parce qu'une fois en sécurité, il peut servir de dépôt de garantie pour se procurer les armes nécessaires. En sortant lors d'Espagne, le camp républicain veut pouvoir acheter le matériel dont elle a besoin pour rivaliser avec l'arsenal ennemi. Des navires, des avions, des canons, des mitrailleuses, des munitions. Transférer l'or est un acte qui se veut pragmatique, mais le choix de l'URSS n'en reste pas moins curieux. La Russie est un pays lointain. L'URSS se distingue par sa bureaucratie et en dehors de ses partisans, personne ne peut ignorer que Staline est un dirigeant qui ne s'embarrasse pas de scrupules. Lorsque Staline décide d'entrer dans la danse, c'est d'abord pour pousser ses pions. Il commence par ouvrir la première ambassade soviétique de l'histoire à Madrid. Et très vite, dans les pas de l'ambassadeur russe Marcel Rosenberg, toute une tripotée d'agents, de conseillers, de diplomates et de journalistes, entre guillemets, s'installe dans la capitale espagnole. Autant d'agents qui s'empresse d'entrer en contact avec le Parti communiste espagnol, qui compte déjà deux ministres au sein du gouvernement du Frente Popular, dirigé par le socialiste Largo Caballero. La décision est pourtant prise, et sur le papier, elle semble plutôt simple. En réalité, l'opération est complexe pour des raisons politiques, symboliques et logistiques. Politiquement, assumer un choix pareil n'est pas simple, et d'ailleurs, personne ne sait vraiment qui a décidé de lancer le processus déclenché très tôt, dès les premiers jours de la guerre. Ce qui est certain, c'est que seul un tout petit cercle est impliqué dans cette décision lourde de conséquences. Sur le plan administratif, l'ordre émane du président du Conseil espagnol, Largo Caballero, mais rien n'est évidemment décidé sans l'accord du ministre des Finances, Juan Negrín, un homme dont l'épouse est russe, soit dit en passant, et qui pourrait bien être à l'origine de l'idée même du départ de l'or vers l'Union soviétique. Pour le reste, si l'urgence justifie sans doute quelques entorses, la décision frôle l'illégalité. Décidée par un cercle restreint, l'opération reste confidentielle au point que le Parlement espagnol, les Cortés, n'est pas consulté. Même le président de la République espagnole, Manuel Azaña, prétendra n'avoir été prévenu qu'une fois le transfert réalisé. À ces sérieuses entraves à la vie démocratique s'en ajoute une autre nettement plus grave sur le plan institutionnel. Comme la plupart des banques centrales, la banque espagnole est une autorité indépendante. Autrement dit, le gouvernement espagnol n'a pas la maîtrise de ses réserves. En plaçant la banque devant le fait accompli, c'est à une sorte de nationalisation silencieuse que la République se livre, au mépris de toutes les règles en vigueur. Qu'on prenne ou non la peine de préserver les apparences, la décision des autorités républicaines pose un sérieux problème que le camp républicain justifie dans un décret du 30 août en avançant des circonstances exceptionnelles. Face à l'insurrection, il s'agit, je cite, « de pouvoir développer la lutte avec l'envergure et l'intensité qu'exige l'écrasement de l'exécrable rébellion ». Alors, pour sauver la République, l'or doit partir. À la fin de l'année 1936, c'est fait. Passé par Carthagène et par Odessa, 510 tonnes d'or espagnol arrivent à Moscou. Sous le regard attentif de l'ambassadeur espagnol en Russie, Marcelino Pascua, elles rejoignent les coffres du commissariat du peuple pour les finances. La dernière étape commence alors, le décompte exact des richesses ainsi déplacées. Un comptage qui s'annonce fastidieux en raison du nombre de caisses à dépouiller, mais pas seulement. La nature même du trésor espagnol rend l'opération délicate. Quand on imagine des réserves d'or, on pense inconsciemment à celui que James Bond protège dans Goldfinger, des centaines de milliers de lingots de métal doré. Dans le cas du trésor espagnol, la réalité est quelque peu différente. Dans les 15 571 sacs d'or recensés à Moscou, il n'y a que 64 lingots, une broutille face au véritable trésor, sorti tout droit d'un roman de piraterie. L'or espagnol, c'est de la monnaie. Des dizaines, des centaines de milliers de pièces d'or de tous les temps, de toutes les origines. Ce qu'on abrite dans les caves de Moscou, c'est le Graal d'un boucanier, le rêve éveillé d'un forban des Caraïbes, des cascades de doublons, de louis d'or, de francs des deux empires, de dollars américains, de pesetas et de livres sterling, de florins hollandais et de francs suisses. Certaines monnaies rares, d'ailleurs, valent bien davantage que leur simple poids en or, ce qui ne simplifie pas la tâche titanesque des comptables et des numismates. Quoi qu'il en soit, si l'or de Madrid est à Moscou, il est en dépôt. Il reste évidemment la propriété de l'Espagne, qui reste libre de réexporter ou de disposer de l'or à sa guise. Enfin, normalement.
Et restez bien avec nous, Stéphane Bern nous raconte la suite du grand hold-up de Staline dans un instant, et bien sûr, dans Historiquement Vôtre, sur Europe 1.
Bonjour, c'est Sophie Davant.
Sophie et les copains.
Serez-vous la prochaine gagnante ou le prochain gagnant du jackpot Europe 1?
Oh, c'est génial, Sophie, qu'est-ce que je suis émue.
Pour jouer avec moi et avec mes copains...
Je vous écoute depuis le premier jour et je trouve ça formidable.
Inscrivez-vous maintenant en envoyant tout simplement Sophie par SMS au 739-21. 3 fois 75 centimes plus coût du SMS.
Merci beaucoup.
Sophie et les copains. Sophie Davant.
Je vous attends. À tout à l'heure, dès 16h.
sur Europe 1.
Tu repars en vacances ? Où ça ?
Aux Caraïbes. Guadeloupe, Île Belle, Aruba.
Mais t'as gagné au loto ou quoi ?
Non, on part en croisière avec Costa. C'est tout compris.
Repartez en vacances avec Costa. Réservez votre croisière tout compris avant le 2 novembre et le deuxième passager paie moitié prix. Info en agence de voyage ou sur costacroisière.fr. Costa.
Vous avez l'air emballé. Attendez, laissez-moi deviner. Vous venez de découvrir les nouvelles remises poltron et sofa. Je comprends que ça vous fasse cet effet-là. Économisez plus de 50% sur la collection douceur. Avec des prix cadeaux comme ça, c'est sûr, il y a de quoi se laisser séduire par nos canapés nouvelle génération.
Poltron et sofa, solo divani di qualità. Voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions au magasin.
On peut penser que faire réviser sa voiture maintenant, ça tombe mal avec les dépenses de la rentrée. Ou on peut choisir le pack privilège. Chez Dacia, vous pouvez mensualiser le coût de vos révisions à partir de 23 euros par mois avec le pack privilège Dacia. Rendez-vous dans l'un de nos 4000 ateliers Dacia Service ou sur Dacia.fr.
Offre réservée aux particuliers sur les véhicules Dacia jusqu'au 31 décembre 2023. Conditions générales et prises de rendez-vous sur Dacia.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Alors, qu'est-ce qui se cuisine de bon chez But ?
Les portes ouvertes de la cuisine, c'est en ce moment chez But. Jusqu'à 30% de remise, des remises supplémentaires jusqu'à 1500 euros et en plus, des financements exceptionnels.
Oh, la régalade !
Conditions de l'offre et sélection cuisine en magasin et sur but.fr.
Leclerc, bonjour !
Bonjour ! Alors comme ça, la rentrée a été reportée ?
Pas que je sache.
Vous êtes sûr ? Parce qu'on m'a dit que votre offre Eco Plus de l'été continue jusqu'à fin septembre. Mais j'ai dû me tromper.
Alors oui, les vacances c'est bien fini. Mais chez Leclerc, notre combat pour le pouvoir d'achat continue. Jusqu'au 30 septembre, profitez de 5% en tickets Leclerc sur tous les produits du quotidien Eco Plus.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre réservée aux porteurs de cartes hors Drumcom. Modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc.
Europe 1. Historiquement vôtre.
Et avec Stéphane Bern qui nous raconte cet après-midi le plus grand hold-up de Staline ou la folle histoire d'un immense transfert d'or de Madrid à Moscou. Si l'or de Madrid est à Moscou, il est en dépôt. Et évidemment, la propriété de l'Espagne qui dispose de l'or à sa guise. Enfin, normalement.
En Espagne, pourtant, lorsque l'information fuite et qu'on apprend que le trésor espagnol est parti pour Moscou, beaucoup expriment déjà leurs craintes jusqu'au cœur du camp républicain. Pour ces voix dissonantes, Madrid a passé un pacte avec le diable, dans un drôle d'engrenage qui pourrait bien virer au marché de dupes. Des craintes justifiées d'ailleurs. Après avoir été informé de l'arrivée de l'or, Staline se serait exclamé en privé, je vous le dis en français, « Les Espagnols ne reverront plus jamais leur or, aussi vrai qu'ils ne verront pas leurs oreilles. » Les choses semblent pourtant se mettre en place. Partout en Europe, Moscou crée des sociétés d'import-export qui achètent un peu partout des stocks d'armes et de munitions avant de les revendre à l'Espagne contre monnaie sonnante et trébuchante. Mais après tout, que l'URSS se fasse payer en dépit des grands discours sur la solidarité internationale contre le fascisme passe encore. De leur côté, les Allemands et les Italiens font bien payer les franquistes, mais avec une solide nuance, la facture ne sera réglée qu'au lendemain de la guerre. L'URSS, elle, veut être payée tout de suite. Et le fait que l'or de la République espagnole dorme dans ses coffres la place évidemment en position de force. Mais la véritable question, c'est de savoir si l'Espagne républicaine paye le juste prix de ce qu'elle obtient à tous les niveaux. D'abord, il n'y a pas de petit profit, même au pays des soviets. Certains ne se privent pas de souligner que Madrid paye très cher son matériel, d'autant plus cher que l'URSS ne se prive pas de jouer sur les cours du change du rouble vers la peseta. Ensuite, la question de la qualité de ce matériel se pose clairement. Acquis sur des marchés de seconde main à Bruxelles, Prague, Varsovie, New York ou Mexico, le matériel et les armes livrées sont souvent vieillots, périmés ou de mauvaise qualité. Des fusils vieux de 40 ans, des avions d'un autre âge, des canons qui chauffent trop vite. Les fournitures expédiées sont souvent dépassées et l'industrie russe de l'armement, elle, réserve le gros de sa production à l'armée rouge. Mais le véritable piège est ailleurs. En aidant l'Espagne, l'URSS a un objectif précis, étendre sa sphère d'influence. Depuis Moscou, Staline entend bien peser sur la vie politique espagnole et pour cela, il dispose de l'homme idéal sur le terrain, le colonel Alexandre Orlov. L'homme qui semble sorti tout droit d'un album de Blake et Mortimer n'est pas n'importe qui. Fidèle du régime, l'homme s'est fait un nom en pourchassant sans l'ombre d'un scrupule les opposants de Staline, à commencer par les partisans de Trotsky. À Madrid, il occupe un poste de premier plan, patron de l'antenne du NKVD, l'héritier de la sinistre GPU et le prédécesseur du KGB. Autrement dit, Orlov est le patron de centaines d'espions, d'informateurs et d'agents russes qui fourmillent dans toute l'Espagne. Grâce à ses agents et par l'intermédiaire du Parti communiste espagnol, l'URSS exerce une influence de plus en plus puissante sur l'exécutif républicain et le piège se referme. En plaçant son or entre les mains russes, Madrid s'est d'une certaine manière lié les mains. L'Union soviétique a, elle, toutes les cartes dans les siennes. D'un instant à l'autre, et même si tout a déjà été payé, elle peut décider de ralentir ses livraisons ou de n'envoyer aucun matériel tant que le gouvernement de la République n'accepte pas de concéder aux communistes espagnols ou étrangers des postes militaires et politiques importants. L'armée républicaine, comme les brigades internationales, sont sous influence, et bien souvent le matériel le plus performant est savamment fléché vers les unités contrôlées par des officiers communistes. Pire encore, l'URSS profite de la guerre civile pour régler quelques comptes, en pourchassant les opposants à Staline, trotskistes et anarchistes en tête. Les disparitions, les meurtres et les éliminations plus ou moins discrètes se multiplient dans le camp républicain, déchirés par les luttes intestines. Au sein des brigades internationales, les agents de Staline ont au fait d'accuser leurs cibles d'espionnage ou de désertion pour mieux les liquider. L'effet de ces ingérences est délétère. Les armes tant attendues arrivent mal et les soviétiques envoient ce que bon leur semble ou bon leur semble sans eau.